Ezoul Flaouen, mrahba bikoum dans ce tout nouveau podcast Amachatch, produit par l'agence Amachal. Je suis Wardia, consultante en communication et animatrice de ce nouveau rendez-vous qui j'espère vous plaira et vous éclairera sur le monde professionnel. Comme vous avez pu l'entendre en introduction, nous allons accueillir au fil des semaines des professionnels de la com, du digital, du web, pour répondre à des questions pratiques et même répondre aux questions que vous vous posez au sujet des métiers d'aujourd'hui. Hello, bonjour, Ezoul Flaouen, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amachatch, le podcast des pros de la com, du marketing et du digital. Vous le savez, avec Amachatch, l'objectif est de vous éclairer ou de vous informer sur des secteurs, des questions d'actualité, mais aussi des métiers d'aujourd'hui. Et nous avons choisi de nous intéresser au marketing sportif. Et pour nous en parler, j'accueille aujourd'hui Yacine Tahari. Marhaba.
Bonjour, salam alaikum, bonjour Ordia.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous de m'avoir invité.
Alors, je ne sais pas si tu as écouté quelques épisodes d'Amachatch, mais l'épisode commence toujours par le pitch de l'invité. Donc, okay. Est-ce que tu peux brièvement, s'il te plaît, te présenter à nos auditeurs et auditrices? Okay. Qui es-tu et que fais-tu dans la vie?
Bon, en général, quand on me demande ce que je fais, je dis que je suis guide de la Casba.
Oui.
Donc, guide de la Casba. Sinon, qui est une conférence générale, je fais le milieu de la communication. J'ai fait un lycée en sciences, puis un master en finance, puis j'ai fait de la gestion de projets multimédia, puis de l'événementiel à l'étranger, puis j'ai fait aussi de la presse. J'ai fini en communication, ça fait bon, maintenant un petit moment que je suis dans le domaine de la communication, puis tout ce qui est RP, puis tout ce qui est communication corporelle des entreprises. Bon, maintenant, je suis en business development pour pas mal de structures. Et sinon, un de mes cœurs de métier, justement, pour revenir, pour raccrocher les wagons par rapport à notre sujet du jour, c'est le sport électronique, donc, qui est variation des loisirs numériques. Donc, c'est un terme un peu savant pour dire le jeu vidéo, c'est-à-dire le gaming. Et le sport électronique est une sous-discipline justement de l'écosystème de tout ce qui est loisirs numériques.
Et bien justement, pour démarrer cette conversation et parler de tout ça, c'est quoi le marketing sportif?
Alors, moi je fais une différenciation entre marketing du sport et sport en marketing.
C'était la question suivante, mais c'est pas grave. C'est pas grave.
Oui,
c'est pas grave.
Mais
c'est important.
On va rewind, on va faire comme si on n'avait rien entendu.
Non,
mais... Donc, le marketing du sport, c'est comme le nom l'indique, c'est comment rendre ready to market les activités sportives. Et un truc que j'essaye d'inculquer et de faire un peu de travail de pédagogie, c'est d'expliquer qu'est-ce que le sport.
Oui.
En vrai, le sport n'est pas nécessairement physique. C'est-à-dire, il faut faire une différenciation entre activité sportive et activité physique, c'est-à-dire faire un effort physique.
Oui.
Le sport, de manière, c'est-à-dire au niveau de la définition académique, c'est toute activité de loisir compétitive. Tu remarqueras que je n'ai jamais utilisé le terme physique quand j'ai fait la définition. Ce qui est important, c'est que, un, c'est une activité de loisir, c'est-à-dire, par exemple, ce n'est pas une activité qui crée de la valeur.
Il y a un enjeu. Oui.
Non, c'est plus au niveau des définitions économiques de base, c'est-à-dire ce n'est pas une activité où, dont l'objectif premier est de créer de la valeur capitale. C'est-à-dire, ça, c'est le travail. Par exemple, c'est comme la différenciation entre un passe-temps et un travail, c'est-à-dire tu fais du tricotage chez toi, tout seul, pour toi, c'est un loisir. Tu fais du tricotage chez toi, toute seule, mais pour des clients, c'est un travail.
Ah, c'est clair.
Les définitions sont importantes. Le sport, c'est la même chose. Le sport, la différence, c'est juste c'est une activité de loisir. Et la deuxième partie qui est importante, c'est compétitif. C'est-à-dire, par exemple, quand tu fais les beauty pageants, c'est-à-dire les miss, c'est du sport. Par exemple, c'est physique. Par contre, t'es pas en train de courir. Mais ça reste quand même une activité de loisir compétitif. Et du coup, il faut partir du principe que, par exemple, tout peut devenir un sport. Même une activité qui ne demande pas beaucoup d'efforts physiques, même si elle demande une certaine, implication et surtout une certaine consommation d'énergie.
Oui.
Par exemple, quand tu fais des échecs ou là, quand tu fais du go, ton cerveau il va quand même cramer pas mal de glucides et de calories parce qu'il faut quand même que le cerveau il ait besoin d'essence.
Oui.
Et quand tu fais, par exemple, quand je parle de sport électronique, ce que je rapproche le plus, c'est le sport mécanique, c'est-à-dire l'automobile. Quand tu es dans une voiture, une Formule 1, en train de courir à 300 km/h, bah, tu es quand même assise. Tu ne fais pas beaucoup d'efforts, mine de rien. Mais c'est quand même un effort d'être dans une voiture, parce qu'il faut se prendre léger, il faut prendre des décisions. Les décisions se font au millième de seconde. Donc, c'est très important. Donc, c'est ça que j'essaie d'inculquer aux gens. Déjà, qu'est-ce que le sport ? Bah, le sport, ce n'est pas un effort physique. Ce n'est pas parce que Wahid Rouhi Jérif Sablet, bon, je dis ça, Sablet, c'est Alger, mais pas parce que Wahid Rouhi Jérif Rabat ou là, qu'il est en train de courir tout seul, qui fait du sport. Non, il fait un effort physique. Parce que Alash, si c'était que ça, bah, n'importe quel ouvrier sur un chantier, bah, il ferait du sport, vu qu'il fait un effort physique.
C'est de l'activité,
oui. Bah oui, bah non, il ne fait pas du sport. Il fait une activité de travail, il fait une activité physique, mais il ne fait pas du sport.
Quelles sont les formes que peut prendre le marketing sportif ? Parce qu'aujourd'hui, on fait du sponsoring, on fait du mécénat, on fait des relations publiques. Il y a des agences dans le monde qui sont spécialisées dans le marketing sportif. Donc, en termes de forme, quelles sont les options qui s'offrent à nous ?
Le marketing du sport est une activité de communication et de marketing global, c'est-à-dire 360, c'est-à-dire on fait de tout. Tu fais du branding, tu fais de la distrib, tu fais de l'affichage, tu fais de l'achat média, tu fais du web, tu fais des créateurs de contenu. Par exemple, moi je vais te donner par exemple l'exemple de quand j'organise une compétition sportive.
Oui.
Déjà, je dois faire le planning, déjà, première des choses, parce qu'à l'âge, je dois planifier déjà la préparation en amont, avant la réalisation, la production en amont. Le montage financier, parce que bah, ça coûte quand même de l'argent de
forcément
louer des salles, d'avoir une belle sono, une belle lumière, une belle scène, de défrayer des gens quand ils ont à se déplacer. Puis, je prépare mon planning de communication, parce que bah, on communique pas au même moment sur les mêmes médias, parce que la télé, c'est un moment, les réseaux sociaux, c'est un moment, la presse, c'est un moment. Exactement. Et après, donc, quand vient le moment de l'événement, ben, c'est un autre moment aussi, parce que tu as le before, le pendant et le after, parce que tu essaies de... Ben, on est dans un monde maintenant d'infobésité où il y a trop de sollicitations, donc c'est s'il vous plaît, moi, et pourquoi moi et pourquoi pas les autres, tu vois. Donc tu dois être tout le temps là en train de communiquer. Et du coup, après, tu as donc la préparation de l'événement, puis l'événement lui-même. Puis, derrière, ben, si tu as des gens qui viennent, ben, peut-être que tu veux leur en proposer plus, parce que peut-être HBT Home. Donc, peut-être que la partie marketing, ben, c'est une buvette, donc il faut la gérer. Peut-être que les gens, ils viennent, ils veulent par exemple des maillots, des casquettes, donc il faut les préparer. Peut-être, par exemple, alors, ce qu'il y a d'intéressant avec le sport électronique, c'est que c'est mitoyen avec la culture. Parce que c'est quand même le jeu vidéo, et le jeu vidéo est quand même une forme de culture et de création artistique.
On va y venir, justement, oui.
Et du coup, peut-être que, bah, à côté, je vais faire une artiste allée. Par exemple, une artiste allée, c'est des illustrateurs, des dessinateurs qui vont faire des dessins à l'OASMA. Peut-être que avant le show, un peu comme par exemple au Super Bowl, tu as un pré-show.
Oui, justement, si l'on prend l'exemple du Super Bowl, c'est l'événement phare où toutes les marques veulent se positionner. Est-ce que, justement, c'est le bon exemple à citer en termes de marketing sportif ?
Oui. Bah, parce que le Super Bowl, bah, déjà, ça existe depuis longtemps.
Ouais.
Donc, il y a eu le temps que ça soit maturé.
Et que ça s'installe véritablement.
Exactement. Ouais. Et le Super Bowl n'est que la dernière étape de tout un processus qui dure toute une année, toute une saison. Parce que, alors, je vais utiliser des termes un peu techniques. Parce qu'en sport, il y a des termes évidemment spécifiques, comme les marketeurs ont leurs termes, leur propre jargon. Par exemple, le Super Bowl est ce qu'on appelle les playoffs, donc les playoffs de la saison entière des deux circuits, parce qu'il y a deux circuits de football américain aux États-Unis, le circuit de l'Est et l'Ouest. À la fin, donc pendant toute la saison, tu as ce qu'ils appellent les play-in, donc tu as des journées où un peu comme le championnat de football, tu as des journées de match.
C'est ça.
Du coup, tu as des journées de match où les différentes équipes vont collecter des points. Et après, tu as des formats. Parce que par exemple, quand tu organises des compétitions, est-ce que la compétition, elle est en single elimination, double elimination, round robin ? Est-ce qu'elle va utiliser des rondes suisses qui sont utilisées en échec ? Est-ce qu'elles vont utiliser le système ELO ? Est-ce que, par exemple, le système ELO, c'est un système de classification ? Est-ce que tu vas faire un open, c'est-à-dire un tournoi, ou bien tout le monde peut s'inscrire, ou bien tu vas faire un invitational. Un invitational, c'est un peu comme la Champions League, c'est uniquement les meilleurs des meilleurs. Comme par exemple, quand tu fais le circuit ATP, c'est uniquement, tu prends, pourquoi on dit un grand chelem ? Parce que dans un grand chelem, c'est uniquement les 100 meilleurs de l'ATP.
Ouais.
Donc, ado, ça, c'est des questions de format. Et le Super Bowl, c'est la résultante de toute une réflexion, de toute une saison de travail sur toute une année qui va faire impliquer des centaines ou des milliers de personnes, des acteurs directs et des acteurs indirects.
Et l'audience est servie sur un plateau d'argent pour tous ces annonceurs.
L'audience, hakikaten, les annonceurs profitent essentiellement d'une plateforme, d'un écosystème établi depuis longtemps. Moi, par exemple, dans mes compétitions, dans la structure que je gère, au local et des communautés que je gère, parce que moi, je gère une structure qui s'appelle eSport DZ. Et je gère aussi des communautés qui sont disponibles à travers différents moyens, soit c'est des groupes Facebook, des serveurs Discord, des choses comme ça. Plus, je travaille avec des KOL et des créateurs de contenu, des partenaires et tout. Les marques, quand elles viennent, elles trouvent déjà l'écosystème. Moi, j'aide. Et les marques, quand elles viennent au Super Bowl ou bien à la Champions League, ou bien, parce que la Champions League, en vrai, c'est juste la résultante de... La suite. T'as le championnat de football d'Angleterre qui a commencé en, je crois, 1700, 1800, quelque chose, tu vois. Quand tu crées un écosystème au bout d'une centaine d'années, l'écosystème, il a eu le temps de maturer au bout d'une centaine d'années. Surtout en sport, le sport, comme le marché, c'est très régulé. Mais le sport est plus régulé que le marché, parce qu'à l'âge. Le marché, c'est une question de politique. Parce que si par exemple... le régulateur est plus tient plus du keynésianisme, il va plus être plus pour la régulation des marchés. S'il est plus libéral, c'est-à-dire l'école de Chicago, il va être plus par l'autorégulation du marché. Bon, après ça c'est une question de point de vue.
Oui.
Évidemment. C'est une question de point de vue. Le sport, c'est ultra régulé à l'âge, parce que le sport fait de tête, c'est tu prends tout le monde. Au début, tu as tout le monde pour donner les chances à tout le monde, c'est-à-dire l'équité et pas l'égalité, c'est différent. L'équité, c'est mettre tout le monde au même niveau. C'est pour ça qu'en sport, par exemple, il y a des catégories. Par exemple, en boxe, tu as 50 kilos, il ne va pas combattre quelqu'un qui fait 150 kilos.
Forcément.
Parce que sinon, il se fait éclater en deux
ans. Sinon, le combat est perdu d'avance.
Ouais. Exactement. Bon, c'est jouable quand même, c'est David contre Goliath. C'est rien, une petite chance. Mais il y a la chance, c'est que tu mets en place une régulation au départ pour que tout le monde ait exactement la même chance. Tu vois. Et les règles, c'est pour ça qu'il y a rules and regulations. Les règles, c'est un être vivant qui évolue. Les règles changent tout le temps. Oui. Parce que le marché et l'écosystème changent tout le temps. Et on le dit toujours en sport, play by the rules, hack the game. C'est-à-dire dans le sens, tu respectes les règles, mais si tu arrives à trouver un moyen de contourner les règles, c'est-à-dire de trouver des points de règle qui n'ont pas été pris en compte, là, tu es dans une zone grise. C'est-à-dire que ce n'est pas de la triche. La règle n'existe pas.
Oui, c'est un vide juridique.
C'est un vide juridique, tu vois.
Ouais. Justement, tu parlais en introduction notamment de loisirs numériques, de gaming, etc. Comment on va retrouver dans cet univers-là, vu qu'on est justement sur du numérique et donc sur du dématérialisé, pardon, comment on va retrouver les codes du marketing sportif ? Comment ça se passe dans cet univers-là ? Contrairement à un match de foot où on va voir du physique au final.
Ok. Bah, en vrai, c'est la même chose. C'est aussi simple que ça. C'est les mêmes éléments de langage, c'est les mêmes discours, c'est plus ou moins les mêmes jargons. La seule chose qui change, c'est que en sport traditionnel, parce que nous on appelle ça le sport traditionnel, c'est essentiellement physique, pas nécessairement tout le temps physique, parce que je parle toujours des échecs et du go et, et des fléchettes et ce genre de choses. Mais c'est numérique, ce n'est pas virtuel, attention, c'est numérique. Et ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est électronique que ce n'est pas physique. Tu fais une compétition de Just Dance, c'est physique. Moi, j'organisais par exemple des compétitions Dance Dance Revolution, c'est un jeu de danse avec du tapis. Je peux te dire que moi, quand j'en faisais à l'époque, en 3 mois, j'ai perdu 20 kilos. Tu vois.
Oui, mais si on prend un exemple, Win, on est sur du gaming, mais on est vraiment sur du jeu en ligne où on oublie l'aspect Win, tu ramènes, Win, tu mets le... Voilà. Moi, je suis devant mon écran avec mes manettes, je suis en réseau avec beaucoup de monde, il y a des compétitions, confirmeras, je ne suis pas connaisseuse, mais je sais que ça existe. Comment moi, en tant que marque, je vais me positionner dans cet inter-écran pour faire connaître ma marque ? Concrètement, comment moi, ma marque, elle est placée dans cet univers ?
Pas très compliqué. tu fais du branding, oui. C'est-à-dire exactement la même manière que quand tu as, par exemple, les maillots ou bien les voitures, par exemple, tu as des logos et des choses comme ça. Parce que, un, bah, c'est de l'affichage.
Oui, c'est, voilà, c'est ça.
C'est la même chose qu'un panneau d'affichage. Parce qu'en vrai, un panneau d'affichage, bah, c'est juste... le panneau d'affichage, en vrai, il ne te dit pas... il te dit pas mon produit, il est bien ou le machin. Tu n'as pas le temps de voir, d'aller dans les messages clés. Tu as le panneau d'affichage. Le panneau d'affichage, il te dit juste « Hey, j'existe ».
Exactement.
C'est tout. Mais après... t'as par exemple le tu sais tout ce qui est l'influencing, enfin que maintenant ils appellent l'influencing, avant ils appelaient ça le marketing, je crois, des VIP ou people marketing ou choses comme ça, c'est-à-dire comment ça s'appelle, Nescafé, George Clooney, pourquoi j'achèterais du Nescafé?
Oui, c'est une association d'images.
Bah, c'est ça. Pourquoi j'achète du Perrier ou là du Evian ou là du Mozaria?
C'est un rapport à l'image.
Mais c'est ça, tu vois. Genre, c'est de l'eau avec des bulles.
Oui.
Genre, tu fais du marketing, c'est juste 36 000 manières différentes de dire « Hey, mon yaourt, il est mieux que l'eau de yaourt. » Mais le yaourt vanilla, c'est-à-dire le yaourt nature...
C'est du yaourt
nature. C'est du yaourt nature. Hein, c'est le boîtier, c'est le contenant qui change. Et... c'est l'univers qui change après Kraton. Parce qu'en vrai, quand tu achètes un yaourt d'une marque X et un yaourt d'une marque Y, bah peut-être parce que les valeurs et l'univers de cette marque te collent. Par exemple, moi, avant le podcast, on discutait, moi j'ai viré, depuis 2017-2018, moi j'ai viré minimalisme lifestyle, j'ai viré totalement healthiness parce que c'est l'air du temps. J'ai viré vers l'éco-responsabilité et du coup, Hadou, les sportifs, c'est le vecteur, c'est les influenceurs, t'as justement les valeurs. Parce qu'à la chaîne sportive, moi, l'exemple le plus simple, les Algériens, on est tous des apprentis sélectionneurs de foot.
Ah oui, ça tu pour vois. Le coup, on a 45 millions de spécialistes.
45 millions de spécialistes en football. Je suis pas sûr qu'on a 45 millions de gens qui savent ce que c'est un hors-jeu ou pire encore, de gens qui savent compter un goal average. D'ailleurs, tiens, tu devrais faire un sondage. Combien de gens, de manière sincère, sans regarder sur Wikipédia, savent calculer un goal average?
Ça, c'est à tester.
Et le truc, c'est que... donc, Hariraten, on a 40 millions de personnes qui pensent que si on les met à la place de Belmadi,
ils feront mieux.
Ils feront mieux. Hein. Mais le truc, c'est que tu fais une expérience toute simple. Tu fais... tu rentres dans un café populaire. Tout le monde est entré. Et là, ouais, non, Belmadi, il aurait dû faire 4-4-2. Belmadi, il aurait dû faire 5-3-1. Belmadi, il aurait fait X-12-22. Tu vois,
genre, on fait des plans sur la comète et c'est très facile.
Il y a des plans sur la comète. Il suffit. Il trouve Cristiano ou Messi. Et Cristiano, il dit, il y a des gâtes. Et Belmadi, il doit faire ça. Je connais les hommes
qui va venir contredire le champion.
Il y a Messi, il y a la je connais. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que je suis technique.
C'est ça.
C'est ça le truc. Et pourquoi justement Cristiano et Messi, eh bien justement, c'est des vecteurs forts de ça. Parce qu'ils ont l'ascendant, parce qu'ils ont la légitimité.
Ils se sont imposés par leur jeu.
Par leur résultat.
Ouais.
Leur résultat.
Justement, en parlant de résultats, comment on peut évaluer aujourd'hui l'impact d'action lié au marketing sportif? Alors que ce soit dans l'univers du gaming que dans l'univers réel, disons.
Bah, c'est pas compliqué, les KPI, chiffres indicateurs clés.
Oui, bon, quand je suis dans un stade, je suis en plein championnat, je regarde un match de foot et donc on a cette fameuse image de plein de noms d'annonceurs et de spots et de claims qui sont tout autour du stade. Comment je sais
L'impact, c'est selon le nombre de clics, est-ce que tes ventes ont changé, est-ce que tes ventes ont progressé de date à date, ça tu le fais avec ton DFC, moi les gens je leur dis.
Mais du coup tu dois le faire à l'instant T, c'est-à-dire au moment où il y a le match, tu es en surveillance.
Évidemment.
Tu n'as pas le choix.
Bah, tu es en train de faire du monitoring, évidemment. Oui. Tu ne peux pas... Il y a Kim Agulok, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Expectations. Tu donnes des expectations aux clients avec des KPI qui sont censés être réalistes. Je veux dire, Insta, tu as 40 000 personnes. Je pense, par exemple, le stade à Saint-Séro. À chaque week-end, il doit être rempli au moins, tu vois, il y a un taux de remplissage de au moins 70%.
Et c'est énorme, bien sûr.
Donc, à partir du moment où pendant une année, une saison entière et d'une année à une autre année, à part dans des cas particuliers, qui m'a par exemple le Covid, où ça c'est vraiment des cas exceptionnels, mais normalement tu es censé avoir tes chiffres. Je veux dire, en tant que bon marketeur et en tant que marketeur qui travaille avec justement les insights, avec le monitoring, avec ses planners stratégiques. En vrai, tu ne prends pas de décision sans data. Donc, oui. Un bon marketeur, normalement, prend des décisions avec de la data, avec des insights.
Ce qui m'amène à te poser la question, puisque pour le coup, tu as parlé de stade, tu as donné un exemple. Est-ce qu'on fait du marketing sportif en Algérie?
Oui. Alors, ce n'est pas hyper méga évolué parce que le marché algérien est particulier et le marché algérien n'est pas supra méga évolué. Mais le marketing sportif, c'est l'équipementier XX qui signe le maillot avec l'équipe d'Algérie, par exemple, tu vois. Ou bien l'opérateur télécom YY qui signe un contrat d'exclusivité sur une année et que tu vois, c'est pas nous. Mais le truc, c'est que c'est à l'image de l'écosystème marketing algérien. Hein,
voilà, c'est ça.
L'écosystème marketing algérien n'est pas énorme. Il ne faut jamais oublier que la société de consommation n'a débarqué qu'en 2008 avec l'ouverture de Ardis. C'est-à-dire les modern trades. Le premier vrai modern trade, c'est Ardis. 2008, c'est pas longtemps. Hein. Si tu compares par rapport à l'air... c'est le début du siècle. Je veux dire, les Galeries Lafayette,
Date.
Ça date. Hein.
Ouais. Et pour faire du marketing sportif, est-ce qu'il faut être simplement déjà bon marketeur? Bon, c'est normal, je pense que c'est un indispensable. Est-ce qu'il faut être spécialiste et connaisseur en sport, selon toi? Ou est-ce que c'est suffisant?
Il faut être légitime.
Comment vient cette légitimité?
De différentes manières. Déjà, première des choses, tu ne peux pas aller dans un... Tu peux aller dans un pays sans parler le langage et comprendre le langage et t'en sortir. Mais tu vas avoir des difficultés. Mais si tu vas dans un pays en connaissant le langage, tu vas t'adapter plus facilement. Et si tu connais la culture locale, tu vas t'adapter encore plus facilement. Et si ça fait longtemps que tu es dans le pays, tu seras accepté encore plus facilement parce que tu es légitime. Et encore plus, si tu es né là-bas ou bien tu as des origines, c'est encore plus facile. Par exemple, à mon titre d'exemple, moi avant j'étais gamer, j'aime pas ce terme, c'est un terme clivant, de niche, mais bon, parce qu'il y a des gens qui se revendiquent en tant que gamer et je respecte ça. Moi à titre personnel, ça fait longtemps que j'ai passé le truc parce que moi je considère qu'on est tous des joueurs, mon grand-père, les boules Felhoma ou la domaine, il est joueur, c'est un jeu. C'est un jeu, mais c'est pas parce que... on dit pas genre les cinéphiles et les e-cinéphiles, tu vois. On est juste cinéphiles, gros. Donc, moi, avant, quand j'étais jeune et que j'étais pas encore dans l'écosystème, justement, compétitif, moi, j'étais un gamer. Mais le truc, c'est que moi, j'avais un truc, bon, les plus anciens se rappelleront de ça, de l'arcade, la salle de jeu. Parce que la salle de jeu, contrairement à la console ou à l'ordinateur qui est individuel, ou bien... Salle de jeu ou le cybercafé. La salle de jeu et le cybercafé, c'est une activité de loisir sociale.
C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. C'est des espaces où on rencontre du monde, donc on est en contact avec l'autre.
Exactement, c'est exactement que... je fais un truc un peu cliché, mais excusez-moi mesdames. Sorry. Mais c'est comme Babilis Faddar ou bien la coiffeuse. C'est pas la même expérience. Tu vois. Donc le truc... Moi j'étais salle de jeu. À travers les salles de jeu, moi j'ai bifurqué sur le monde de l'arcade, puis sur l'industrie, parce que moi j'étais rédacteur journaliste pigiste pour un média étranger, et je faisais les couvertures de tout ce qui est actuel arcade international, donc l'actualité des machines et des équipements pour salles de jeu. Puis à travers de fil en aiguille, je me suis commencé à m'intéresser à l'industrie des loisirs numériques qui est actuellement, c'est des RP, Google Examax, soi-disant, c'est la plus grande entreprise, industrie culturelle au monde. Bon, c'est toujours comme pareil, c'est qui m'a comme une manifestation entre l'organisateur Chalila Conté et la police Chalila Conté. Bon, voilà. L'industrie, c'est la plus grande, mais bon, c'est parce qu'ils comparent par rapport au cinéma en salle. Mais si tu prends le cinéma en salle, plus Netflix, plus les DVD, plus le Blu-ray, non, c'est toujours le cinéma et la musique qui restent les premières industries culturelles. Donc j'ai commencé à comprendre l'industrie culturelle et du coup le marketing justement de cette industrie culturelle parce que ça reste quand même des produits. Les gens, je leur dis, franchement, le marketing, vous me donnez du yaourt, ou vous me donnez des jeux vidéo, ou vous me donnez des bananes, ou vous me donnez des puces 3G, je les vends, il n'y a pas de problème. Après, quand je suis rentré dans l'industrie des loisirs, j'ai commencé à rencontrer, parce que l'arcade, et surtout, moi j'ai commencé avec un des trucs qui était un des premiers vrais sports électroniques de l'histoire des sports électroniques, c'est le jeu de combat. C'est-à-dire, c'est Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat. Parce que c'est un sport de combat qui ne demande pas beaucoup d'équipement, contrairement à d'autres sports de combat qui est connecté. Par exemple, c'est comme FIFA. FIFA, tu as besoin d'une machine, deux manettes, yallah. Tu vois. Alors que par exemple, si tu fais du League of Legends ou du Counter-Strike, eh ben, il te faut 2x5 PC, plus une bonne connexion, et les PC, madabéon, mekono salhen. À travers justement la culture du jeu de combat, et parce qu'il y a une vraie culture du jeu de combat, c'est une culture martiale, un peu comme par exemple MMA ou la boxe et tout, ils ont leur propre culture. Parce qu'on fait une différenciation entre le sport électronique et la fighting game community, c'est-à-dire l'ensemble de tous les jeux de combat communautaires. Et du coup, j'ai commencé justement à découvrir le monde justement de la sportivité et du sport électronique. Du sport électronique, bah du coup, maintenant, je suis parti vers le sport traditionnel. Parce qu'en vrai, entre sport électronique et sport traditionnel, juste une infime petite frontière qui n'est pas très compliquée. Parce qu'en gros, tu rajoutes juste le E pour dire électronique.
C'est comme et la c'est même chose. Bon, et c'est plié.
C'est comme marketing traditionnel, marketing digital. Bah, c'est juste la même chose, c'est juste qu'il y en a un, il est en vrai, et un, il est en vrai, mais numérique.
Donc oui, et une fois que le site, on va dire que l'écosystème marketing sera développé, à ce moment-là, celui du sport aussi pourra, enfin le marketing du sport pourrait aussi se développer. Et justement en parlant de ça, enfin tu me confirmeras ou non, mais je pense qu'il y a pas de formation pour ça chez nous.
Non.
Voilà.
Oui, alors il y a des formations de marketing sportif. Maintenant il y a même des écoles dédiées au sport électronique. À l'étranger, il y en a pas beaucoup. Maintenant même, t'as les salles de spectacle qui commencent à se reconvertir, par exemple, en e-sport arena.
Oui.
Par exemple, il y a
l'exemple... Ça commence à être courant, ça.
Oui, il y a l'exemple de l'hôtel Mandalay Bay, donc qui est à Las Vegas, qui a construit toute une e-sport arena, parce que c'est dans la même démarche que le numérique, le métavers, le VR, tout ça, machin. Les gens se rendent compte, surtout depuis le Covid, que, on peut faire des choses en numérique qu'il n'y a pas besoin de faire en physique. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de déplacer 1 milliard de personnes pour une conférence de presse ou pour un événement, pour un salon. Si
surtout qu'aujourd'hui, les outils nous le permettent.
C'est ça, les outils nous le permettent.
Ouais.
Je veux dire, moi, il y a des gens, je leur ai dit, franchement, si vous, les moyens sont limités, ça ne sert à rien de louer une salle de formation. Faites une room sur Discord ou faites un webinar, c'est
ça
très
bien. Ça
coûte
moins cher et c'est moins, c'est moins énergivore. Ouais.
Voilà, c'est ça. En plus, vous n'avez pas besoin de plein de choses. C'est très bien. Les gens commencent à comprendre ça et du coup, et ils commencent par exemple à comprendre un peu comme la VAR, la VAR, en football. J'ai oublié l'acronyme vidéo assistée ou je ne sais pas quoi, le replay, tout ça, machin.
Oui, c'est ça.
En sport électronique, c'est fait automatiquement. Parce que moi, j'ai pas besoin de savoir quand je fais du FIFA. J'ai pas besoin d'arbitre qui me dit ah bah non, c'est rentré,
là,
c'est pas rentré.
Bon,
c'est automatiquement.
Ouais.
C'est automatiquement, tu vois. Du coup, les gens se rendent compte, en faisant ça, ça permet de réduire les coûts. Et là, même là, récemment, maintenant, c'est rentré officiellement aux Jeux Olympiques. Bon, c'est pas une discipline officielle, parce qu'il faut savoir, il y a des disciplines officielles, mais il y a des disciplines un peu en parallèle. Là, en 2024, il y a 4 nouveaux sports qui arrivent dans les Jeux Olympiques. Et évidemment, c'est des sports qui ont été choisis pour des raisons marketing. Parce que c'est le breakdance, le skateboarding, l'alpinisme en intérieur et le surf. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils se sont rendus compte que les sports traditionnels, au niveau des audiences, il y a un peu
ça commence
perte d'audience.
Du nez,
ça. C'est pas piqué du nez. Il y a un désintérêt des audiences jeunes et du grand public. Et du coup, il y a un shift... Il y a une réorientation vers des audiences à forte valeur ajoutée.
Voilà, je pense qu'on a semé pas mal de notions. Alors, on vous invite vraiment
si
à continuer vos recherches.
Juste rajouter
chose
pour clôturer, parce que bon, on n'a pas le temps, mais si jamais il y a des gens qui ont des questions, qui n'hésitent pas à me contacter sur mes réseaux. C'est Yassine Tahari sur essentiellement Facebook et Instagram. Ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser justement aux valeurs du sport dans le cadre de la gestion interne des organisations, c'est-à-dire plus d'un point de vue RH.
Oui.
Comment motiver une équipe, comment motiver des gens, comment garder la motivation sur le long terme, Comment faire en sorte que les gens qui sont burn-out les récupérer pour qu'ils ne sortent pas de l'écosystème? Comment les faire monter en
compétences,
Ça, c'est moins marketing, c'est plus RH. Oui. Le marketing et RH, c'est lié.
Aussi. Oui.
Ce qui est intéressant, juste pour finir, parce qu'il y a une rencontre qui s'est faite il y a longtemps à l'ESA, l'École supérieure des administrations. C'était en 2014 et l'ESA était assez à l'avance, en avance sur la mode, sur la hype. Ils avaient ramené, vous pourrez retrouver genre des archives peut-être, ils avaient ramené un ancien coach de l'équipe de France de rugby qui s'appelle Daniel Herrero. Mm-hmm. Donc c'est, alors je suis en train de lire, ancien joueur rugby haut niveau, entraîneur du rugby club toulonnais et champion de France et chroniqueur et tout ça. Il est conférencier et lui il travaille sur les team building et tout. Et alors je vais le citer.
Oui.
Pour justement les thèmes qui thèmes d'intervention quand il fait du team building, et c'est des choses qui sont très importantes et qui reviennent non seulement en sport mais aussi dans le monde de l'entreprise. C'est alors l'art de rendre une équipe encore plus performante, ça, oui, c'est très important pour les entreprises. La force de travail en groupe et le respect des individualités qui composent ce groupe, parce qu'une entreprise,
c'est le collectif.
C'est un collectif. Mmh. Et moi je donne l'exemple d'Al Corso, c'est-à-dire Barberousse. Il faut partir du principe qu'une entreprise, c'est juste une flotte. Mm. Chaque salarié, c'est un bateau.
Il faut savoir
tailles.
Le mener.
Ça, c'est... Mais il faut quand même quelqu'un pour donner la direction. Bah, et ce n'est pas donné à tout le monde.
Clairement.
L'importance de l'association d'individualité à la quête du même objectif, c'est-à-dire la vision et aller tous dans la même direction et savoir le communiquer en interne, c'est très important.
Oui.
La motivation comme moteur d'action, de l'action. C'est la motivation, parce qu'à l'âge, ça vous fait économiser beaucoup, beaucoup d'argent sur les frais et sur les factures.
Oui, tout à fait.
C'est pour ça que je dis aux gens, faites ce que vous avez envie, les projets passion, parce que c'est pas pour arnaquer les gens, mais ça permet de mieux négocier les remises, oui, sur les factures. La prise d'initiative et la prise de risque contrôlée, parce que, Kimé Goulok, faut pas prendre d'initiative, mais il faut savoir quand même qu'on prend des initiatives, mais il, oui, faut que ça soit réfléchi. Mmh. Et la capacité à gérer son stress et à savoir surmonter les échecs. Ça, justement, c'est par rapport à tout ce qui est la gestion du stress, le burn-out et le fait de faire en sorte de ne pas perdre ses compétences internes en entreprise. Parce qu'une entreprise qui a du bleeding, qui est en hémorragie, c'est une entreprise qui perd ses compétences, qui n'arrive pas à se renouveler et qui ne va pas durer longtemps.
Oui.
Et il faut prendre soin, justement, de ces...
Donc, juste pour reciter l'entraîneur, c'est Daniel Herrero.
C'est Daniel Herrero.
Voilà, comme ça permet à ceux qui nous écoutent, exactement, d'aller faire aussi leur petite recherche. Avant de finir, Yacine, on aime bien finir sur la speed chat, des questions très rapides auxquelles, yes, il faut répondre au tac au tac. Donc, ton activité préférée?
Guide à la Casbah.
À quelle heure tu te réveilles le matin?
7h moins quart.
Très précis. Ton film préféré ou ta série coup de cœur?
Alors j'en ai pas, parce que j'aime pas juger des heures parmi d'autres, mais ce que je peux faire, je peux recommander Mad Max Fury Road.
Ok, ton réseau social favori?
La vraie vie.
Ton jeu vidéo préféré?
Pareil que
pour les films.
Pour les films, ouais. Mais je recommanderais Street Fighter 2.
J'ai envie de dire grand classique. Merci Yacine d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pris de ton temps pour répondre à nos questions.
Merci à toi Ordia, merci à Machal et merci aux auditeurs.
Merci infiniment. Quant à vous qui nous écoutez, vous avez l'habitude, hein, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées et à rejoindre Machal sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Likez-vous, partagez-vous l'épisode et surtout n'hésitez pas aussi à nous dire quelles sont les personnes que vous aimeriez voir et écouter surtout sur Amachatch et on pourra aller les chercher rien que pour vous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Amachatch.